L'agriculture est un domaine en permanente transition et nous vivons dans un territoire riche en initiatives agricoles et alimentaires.
C'est pourquoi Radio Pays d'Hérault, en partenariat avec le Pays Cœur d'Hérault, a rencontré des agriculteurs et des agricultrices de différents horizons.
Ils nous ont parlé de leur quotidien, de leurs pratiques et de leurs difficultés, mais aussi de leur fierté et de leur passion d'exercer ce métier.
Découvrez-les à travers ces portraits.
Donc, j'évite le travail du sol. Donc, j'ai la chance de ne pas avoir à replanter chaque année. Donc, c'est plus facile qu'en maraîchage. Mais pour moi, c'est très important pour respecter la vie du sol. Ensuite, les petits fruits rouges, contrairement aux arbres fruitiers, ont moins de maladies. Enfin, donc, ça a moins besoin de traitement. Donc, ça a un gros avantage. Moi, ce que je leur fais chaque année, c'est que je leur mets du purin d'ortie pour les fortifier en début de saison. Et alors là, cette année, j'ai eu la première maladie, on va dire. Enfin, c'est un ravageur, c'est la tantraide, c'est une mouche qui vient pondre sur les groseilliers, groseilliers à macro, et les petites larves qui ressemblent à des chenilles, elles sont vertes et elles se mettent sur le bord des feuilles, donc on les voit pas du tout. Et elles grignotent toutes les feuilles, donc en fait, il n'y a plus de feuilles. Donc là, j'ai dû me battre au printemps avec ces petites larves. Voilà, je les ai écrasés à main nue sur toutes les feuilles et en fait, il y en a vraiment beaucoup. Donc après, il y a des techniques hein, pour les retirer, le savon noir, etc. Mais là, comme il faisait que pleuvoir, je n'ai pas fait du tout de traitement, j'ai tout fait à la main, mais j'ai beaucoup de groseilliers là qui sont mal en point à cause de ça. Eh bien, bonjour, moi je m'appelle Marie Périquet, j'habite à Saint-Étienne-de-Gourgas, donc c'est un petit village à côté de l'Audève, à 10 minutes de l'Audève, au pied du cirque du bout du monde. Et depuis 5 ans, je me suis installée en agriculture pour faire surtout des petits fruits rouges et les transformer principalement en sorbet plein fruits, tout ça en agriculture biologique.
Si vous êtes installée depuis 5 ans, c'est qu'avant vous faisiez autre chose et pourquoi alors cette reconversion ?
Eh bien, oui, c'est une bonne question. Avant, je travaillais dans le domaine de l'hydrogéologie. J'ai fait de la recherche, j'ai fait même une thèse. Et suite à ça, j'ai travaillé un peu en assainissement non collectif, en phytoépuration. Et en même temps, j'ai eu deux enfants, deux filles, qui ont fait que j'ai eu envie de travailler plus par chez moi, de ne pas avoir à faire trop de trajets. Et en même temps, j'ai eu cette envie qui a émergé de cultiver des plantes et aussi notamment des petits fruits rouges parce que c'est quelque chose qu'on ne trouve pas facilement dans les commerces ou alors c'est cher, ça vient de loin. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et je suis assez gourmande, notamment des petits fruits rouges. Alors ce que j'appelle petits fruits rouges, ça va être cassis, groseille, fraise, framboise, mûre. Après, j'ai fait quelques autres essais comme des groseilles à macro, des muroises, des caseilles. Voilà.
Ce sont des fruits de la région, ça ? Et donc, ils s'adaptent ou pas ?
Alors, je dirais qu'on est un peu à la limite pour ces fruits-là, à part les fraises qui sont assez polyvalentes. Mais cassis et groseilles, c'est un peu difficile de les cultiver plus au sud qu'ici. Alors là, on est vraiment à la limite parce qu'on est au pied du plateau du Larzac. Donc on a encore un peu de fraîcheur, mon terrain est juste au bord de la Braise, qui est une rivière à 12 degrés toute l'année, qui sort du plateau du Larzac en fait. Du coup ça permet d'avoir de la fraîcheur et aussi comme il y a des collines, voilà, l'ensoleillement est un peu plus limité. Donc ça me permet de cultiver ces fruits avec la fraîcheur qu'il faut. Mais j'avoue que, par exemple, l'année dernière, on a eu un été très sec et très chaud. Et voilà, j'en ressens les conséquences cette année, notamment au niveau des framboises, où toutes les cannes qui ont poussé l'année dernière et qui devraient produire cette année sont toutes sèches. Donc j'ai très peu de framboises, par exemple, cette année.
Alors, les agriculteurs ont souvent des hectares, voire des dizaines d'hectares sur leur exploitation. Vous, je suppose que c'est un peu plus réduit que ça ?
Oui, énormément plus réduit. Voilà, je suis toute seule et aussi je fais tout à la main. Et je transforme tout ce que je produis. Donc en fait, ça valorise énormément les fruits. Et j'ai pas besoin de beaucoup de surface, parce qu'après, le temps de transformation est à prendre en compte et aussi le temps de vente. Donc du coup, là, actuellement, bon, j'ai 3 terrains, mais celui qui produit vraiment actuellement, c'est un terrain de 2000 m². Donc voilà, mais après les petits fruits rouges, en fait, il faut guère plus quand on est tout seul parce que c'est très long à ramasser.
Et à quoi vous êtes confronté donc au quotidien? Vous parliez donc justement des problématiques de sécheresse, etc. Donc c'est long à ramasser. Quelle est la particularité de l'exploitation finalement de fruits rouges?
Alors la particularité de l'exploitation de fruits rouges est du fait que je transforme en sorbet, c'est que c'est très condensé dans l'année. Donc ça veut dire que en fait je travaille toute l'année, mais la partie la plus dense, c'est ça va commencer genre en mi-avril jusqu'à mi-septembre, où là je vais avoir à la fois la cueillette, la transformation et la vente, sachant que la vente se fait surtout de mai, juin, juillet, août, septembre.
C'est un peu le propre de tous les agriculteurs d'avoir beaucoup de travail au moment de la production, voire de la transformation. C'est saisonnier comme travail.
Oui, enfin, sauf que les sorbets, c'est quand même, on les vend surtout l'été, et les fruits rouges, c'est très long à ramasser. Donc ça ne s'étale pas sur l'année comme d'autres cultures. Et donc c'est ça la particularité quand même. Et la vente aussi prend du temps parce que je vends aussi sur les marchés à la boule, dans des cornets. Et donc ça aussi, ça demande du temps et de l'énergie. Et voilà, donc c'est tout ça.
Comment vous travaillez la terre et qu'est-ce qu'il faut pour faire des bons fruits rouges?
Avec du recul, je ne l'aurais pas refait comme ça. Je ne l'aurais pas labouré, mais il y a un côté pratique où voilà, la terre est à nu et on peut démarrer. Le mieux, ce serait de planter des engrais verts sur 1 ou 2 ans, en fait, donc pour enrichir le sol de ces engrais. Et ensuite, je plante. Donc généralement, c'est des cultures qui sont assez pérennes, à part les fraises, que je plante pour 3 à 4 ans seulement. Sachant qu'après, il faut que je les replante ailleurs. Il faut attendre 10 ans au niveau de la rotation. Ensuite, voilà, les framboisiers, cassissiers, etc., c'est de 10 à 15 ans la durée de vie. Donc c'est assez long. Et une fois que c'est planté, c'est important de bien pailler. Une bonne dose de paillage. Donc ça peut être du broyat ou de la paille. De l'amendement, donc ça peut être du fumier décomposé ou des granulés. Et ensuite, c'est à peu près tout. Après, il y a du désherbage à faire et puis des broussaillages aux alentours pour circuler facilement. Depuis que j'ai démarré, ça fait pas si longtemps que ça, ça fait 5 ans, j'ai voulu essayer les différentes variétés de fraises, donc chaque année, pour voir celle qui me va le mieux en fait. Mais j'ai pu remarquer par exemple que celle qui était très précoce n'était pas à mon avantage parce que à cause du gel, j'avais beaucoup de pertes. Surtout parce qu'en fait, dans les fraises, il y a les non remontantes et les remontantes. Donc ça aussi, c'est un choix. C'est pareil pour les framboises. Et c'est un choix à faire en fonction de quand est-ce qu'on a besoin de la récolte pour transformer dans mon cas. Et comme moi, je vends pas de fraises en frais ou très peu, j'ai pas forcément besoin d'en avoir de manière très précoce ou tout d'un coup. Mais j'aime bien avoir les deux, comme ça me permet de démarrer la saison avec un gros bagage de fraises. Et ensuite, j'en ai un peu tout le long de la saison pour continuer avec les autres fruits. Sachant que la fraise et la rhubarbe sont les premiers fruits de la saison, pour moi.
Et justement, alors comment vous transformez les fruits en sorbet ?
Alors, les fruits, eh ben, c'est assez simple. Une fois que j'ai les fruits, je les transforme en purée. Donc pour ça, souvent, j'ai une machine, ça s'appelle une raffineuse électrique, qui permet de tirer la partie granuleuse, comme les grains des framboises, de la partie qui me permet d'avoir la purée pour pouvoir faire mon sorbet. Alors je rajoute un peu de farine de graines de caroube pour épaissir et conserver, et de sirop de glucose déshydraté de temps en temps pour permettre une bonne texture de la glace. Et le lendemain, je ressors mon mix, ça s'appelle un mix ce que j'ai fait, et je le mets dans la turbine à glace, ce qui me permet ensuite de, à la sortie d'avoir la glace de ce mix. Je le mets au surgélateur. Soit je les mets dans des bacs, soit dans des petits pots. Donc pour les petits pots, j'utilise une empoteuse spéciale pour la glace. Donc voilà, donc je remplis ce qui sort de la turbine à glace dans mon cylindre pour empoter. Et ensuite, une fois que c'est empoté, je mets tout rapidement au surgélateur pour descendre à moins 18 degrés le plus rapidement possible pour éviter la cristallisation de la glace. Et une fois que la glace est stabilisée, je peux la mettre au congélateur.
Et alors, donc, vous avez une diversité de saveurs au niveau des sorbets ?
Oui, oui. Alors, parce que je vous ai parlé des petits fruits rouges, mais en fait, je ne fais pas que ça. J'ai aussi donc de la rhubarbe, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je fais aussi un peu de melon, abricots, figues. Donc voilà, tout ça, je le fais. Après, je fais des mélanges de saveurs comme fraise basilic ou citron menthe. Donc j'achète aussi un peu de citron parce que des sorbets sans citron, c'est compliqué. La demande est là et c'est quand même important. Donc j'essaie de prendre des citrons qui sont produits à l'Odève. Donc ça s'appelle les citrons meilleurs. C'est une variété de citron qui est vraiment très bonne d'un producteur du coin. J'ai pas parlé du chocolat aussi. Donc voilà, je le produis pas encore. Mais je fais sorbet au chocolat noir. Donc sans produits laitiers. Hein, toutes mes glaces sont sans produits laitiers. Et pareil, ça aussi, ça a beaucoup de succès. Donc des fois, je rajoute du piment que je produis ou du gingembre. Donc ça fait chocolat piment ou chocolat gingembre.
Je voudrais revenir sur deux choses. On a parlé de la terre et comment vous la nourrissiez, vous la respectiez pour qu'elle soit productive. Les fruits dans l'agriculture, les fruits aussi, ils peuvent être malades. Vous êtes confronté à quel type de maladie et comment vous soignez vos plantes ?
Alors déjà, ce que je voudrais rajouter par rapport au travail du sol, c'est que je ne le travaille pas. Donc j'évite le travail du sol. Donc j'ai la chance de pas avoir à replanter chaque année. Donc c'est plus facile qu'en maraîchage. Mais pour moi, c'est très important pour respecter la vie du sol. Ensuite, j'ai les petits fruits rouges, contrairement aux arbres fruitiers, ont moins de maladies. Enfin, donc ça a moins besoin de traitement. Donc ça a un gros avantage. Moi, ce que je leur fais chaque année, c'est que je leur mets du purin d'ortie pour les fortifier en début de saison. Et alors là, cette année, j'ai eu la première maladie, on va dire. Enfin, c'est un ravageur, c'est la tantraide, c'est une mouche qui vient pondre sur les groseilliers, groseilliers à macro, et les petites larves qui ressemblent à des chenilles, elles sont vertes et elles se mettent sur le bord des feuilles, donc on les voit pas du tout. Et elles grignotent toutes les feuilles, donc en fait, il n'y a plus de feuilles. Donc là, j'ai dû me battre au printemps avec ces petites larves. Voilà, je les ai écrasées à main nue sur toutes les feuilles et en fait, il y en a vraiment beaucoup. Donc après, il y a des techniques hein, pour les retirer, le savon noir, etc. Mais là, comme il faisait que pleuvoir, je n'ai pas fait du tout de traitement, j'ai tout fait à la main, mais j'ai beaucoup de groseilliers là qui sont mal en point à cause de ça.
Alors je voulais aussi revenir sur une deuxième chose, c'est dont on n'a pas parlé, c'est pas d'agriculture sans eau. Et quand vous vous êtes présenté tout à l'heure, j'ai dit, tiens, hydrogéologue, elle est tout à fait prête à gérer ce problème de l'eau. Alors ici, vous avez dit au bord de la braise, mais d'une façon générale, comment vous gérez peut-être demain le manque d'eau ?
Pour mon terrain à Gourgas, je dirais que l'eau n'est pas à manquer pour le moment. Parce que donc la braise dont je parlais tout à l'heure, là, la rivière sort du bas du plateau du Larzac et donc draine énormément l'eau de tout le plateau, enfin d'une bonne partie du plateau. Je pense qu'elle est loin de se tarir. Je pense que ça sera une des zones dans le secteur qui sera la moins touchée par la sécheresse dans les prochaines années. Donc j'avoue que je ne m'inquiète pas trop pour le moment. Après, j'ai un autre terrain où là, j'ai mon potager et puis des arbres fruitiers qui, là, oui, ça commence à être plus critique parce que, en fait, on se sert sur la source du trop-plein du village. Et là, régulièrement, ce trop-plein s'arrête, reprend. Donc là, on est en plein questionnement. On en discute avec le maire, mais c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'un arrêt. Donc là, on se questionne un peu. Après, les solutions, c'est pas miraculeux, hein. Solution, ça serait de pomper directement dans la rivière, mais bon, c'est pas forcément une solution. Et puis il faut une pompe thermique, ça a un coût, et puis il faut des autorisations aussi. Pour le moment, on en est là. Après, on peut toujours aller chercher l'eau sous la terre, mais ça, ça a un coût énorme aussi. Donc,
et puis il y a des pratiques qui sont plus économes en eau que d'autres. Vous avez parlé tout à l'heure du paillage en particulier.
Ah oui, le paillage, c'est juste indispensable à l'heure actuelle, je pense.
Mais au-delà de ce compostage qui se fait après, l'année d'après, et qui, c'est aussi, ça empêche de l'évaporation.
Ça empêche l'évaporation, exactement. Et puis ça donne un couvert, un toit à la vie du sol, en fait. Eux, ils en ont absolument besoin pour pouvoir dégrader toutes les matières du sol et de cette paille qui permet de libérer des éléments, des micro-éléments qui permet de nourrir la plante, vraiment dans ce sens-là, quoi.
Est-ce que vous êtes satisfaite de ce changement de quelque part de vie entre ce que vous faisiez avant, vos recherches, comment vous avez vécu toute cette transition finalement, et est-ce que vous en tirez une satisfaction de ce changement de vie quelque part?
Alors je dirais directement oui. Parce que avant, je travaillais beaucoup devant un ordinateur, de manière assez isolée en fait. Alors que à l'heure d'aujourd'hui, je passe beaucoup de temps dehors, et ça, pour moi, c'est essentiel. Donc, je me suis vraiment reconnectée avec la terre et les végétaux, la nature. Et puis, j'ai la satisfaction de vendre un produit que les gens aime. J'ai vraiment eu beaucoup de retours positifs et donc ça m'a donné beaucoup de reconnaissance, et ça a été très important pour moi dans mon travail.
Vous parlez de satisfaction, on va finir là-dessus peut-être. Est-ce que le fait d'avoir les clients finaux, de vendre, d'avoir cette relation et donc ce retour fait partie de la satisfaction?
Alors pour moi, elle est très importante. D'ailleurs, j'ai de plus en plus de mal à vendre en vente indirecte dans les magasins. J'aime beaucoup ça parce que c'est le moment où justement j'ai le lien avec ceux qui mangent ce que je produis, et ça permet de discuter, d'avoir des retours, et voilà, moi ça me nourrit énormément en retour.
Donc un agriculteur, ça nourrit et ça se nourrit. Marie Périquet, merci.
Ouais, merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était Marie Périquet. Un portrait d'agricultrice réalisé par Radio Pays d'Hérault en partenariat avec le Pays Cœur d'Hérault. Tous les podcasts sur rphfm.org.